RCF.
La paix est-elle inaccessible ou bien peut-on arriver à cet idéal et pour y parvenir, Père Guillaume Le Floch, bonjour.
Bonjour Madeleine.
Pour y parvenir, vous vous arrêtez sur la façon dont elle peut venir par la prière. La paix et la prière, c'est vrai que c'est souvent associé, mais parfois aussi la prière, ça peut être un lieu justement au contraire turbulent, de pensées qui se bousculent. C'est pas toujours synonyme de paix la prière, pourquoi ?
Parce que c'est pas toujours facile de se poser, et pourtant, quand on se donne les moyens, quand on prend du temps, parce que parmi la prière, je citerai par exemple l'oraison. L'oraison, c'est une prière qui est à redécouvrir, ce temps un peu long, un peu gratuit pour le Seigneur, où on ne fait rien, même pas de chapelet, etc. Enfin, on peut éventuellement lire un texte de la parole de Dieu, ça fait jamais le mal, mais on est d'abord posé, il est là, un peu comme le paroissien du curé d'Ars, je l'avise, il m'avise, mais simplement gratuitement. Et peut-être que cette gratuité, ce temps un peu long, peut-être justement avoir cette paix. Et on ne peut pas penser à Élie. Vous savez, le prophète Élie, qui était peut-être d'abord un peu belliqueux avant de rencontrer le Seigneur, il avait envie de tuer les faux prophètes, il y avait plein de faux prophètes, lui il était fidèle, il est un peu fier, enfin, Élie, et vous le savez, il va faire l'expérience de Dieu dans la caverne. Et en fait, le Seigneur va lui montrer que la présence, ça marche pas par la bagarre, par la dispute, mais il va faire l'expérience du Dieu qui est présent dans le murmure d'une brise légère. Et pour Élie, c'est une vraie expérience de paix. Et ça change cette image de la prière où c'est d'abord un combat. Il n'empêche que pour être fidèle, la prière, elle demeure un combat. Parce que si on attend d'avoir envie, bah on prie plus, enfin parce qu'on ressent pas, et puis la veille c'était super, on sentait le Seigneur, et puis on sait pas pourquoi le lendemain et le surlendemain il ne se passe rien, mais il n'empêche que cette fidélité, ce rendez-vous, j'en suis convaincu qu'il est vraiment source de paix.
Alors vous parlez de l'oraison c'est une prière mais un peu plus longue, peut-être nous dire vous faites oraison, à quoi ça ressemble?
Je fais oraison tous les jours. Mais c'est pas parce que je suis prêtre et ordonné depuis quelques années que c'est pour autant facile, mais il n'empêche que je suis toujours heureux d'avoir pris un moment gratuit avec le Seigneur. J'essaye d'être surtout dans l'église, devant le Saint-Sacrement, où je suis entre guillemets posé. Un temps un peu gratuit et même comme prêtre facilement, trop facilement devant le Seigneur, on pense à d'autres choses, à ma future homélie, etc. Mais en fait, la gratuité, peut-être que justement, elle nous aide à retrouver cette paix et moi le premier, on a tous à retrouver cette gratuité dans un monde où on est à 100 à l'heure, on pense toujours à plus tard. Et en fait, je suis convaincu que ce silence et cette gratuité sont vraiment source de paix.
Donc ça, c'est l'oraison. Qu'est-ce qu'il en est de la confession, du sacrement de réconciliation? Dans réconciliation, on entend la réconciliation des peuples, mais la réconciliation de soi-même avec Dieu.
La confession, c'est vraiment un cadeau à redécouvrir. Et justement, pour retrouver cette paix, parce que de temps en temps, on voit bien qu'il y a certains péchés, certains actes qui nous coupent de cette paix. Donc on a besoin de s'en remettre et de redécouvrir la miséricorde du Seigneur et de recevoir cette pardon pour retrouver cette paix. Et puis, le prêtre, quand il nous donne l'absolution, et c'est dans la formule absolution, on reçoit le pardon et la paix. Et du coup, voilà, il y a déjà cette paix qui est coupée par nos actes. Et en plus, on reçoit cette paix dans la formule absolution. Et on voit bien, on fait l'expérience que cette paix, elle est fragile. Et en même temps, il y a des choses qu'on a dit, des rencontres, des choses qu'on n'a pas fait, etc. Et du coup, on n'est pas dans la paix. Et on a besoin de se confesser pour pouvoir retrouver cette paix.
C'est-à-dire qu'on est chargé en fait de honte, de culpabilité, de regret, de remords. C'est cela qui vient troubler la paix avant le sacrement de confession.
Mais c'est ça, oui. C'est par ce qu'on a fait ou pas fait. Moi le premier, de temps en temps, il y a des trucs où on va trop vite ou on n'assume pas ou des choses qu'on fait. Le péché coupe cette paix et on a l'habitude de voir nos péchés comme des manques d'amour et en fait quand on n'a pas été fier de notre foi ou par rapport aux autres aussi, même par rapport à soi-même, mais du coup on a perdu cette paix. Et alors le sacrement de réconciliation, c'est vraiment le lieu pour retrouver cette paix.
Alors la paix, elle est présente dans la liturgie, celle que vous célébrez notamment pendant la messe. À quel moment pour vous, au cours d'une messe, il y a justement l'évocation de la paix, le geste de paix?
Mais la paix, elle est présente dans toute la messe. encore plus quand c'est un évêque qui préside, parce que lui, il fait comme le Christ, la paix soit avec vous. Voilà, il reprend sur les paroles du Christ ressuscité, mais tout au long de la messe, il y a la paix. Évidemment, on envoie, voilà, on a reçu la parole de Dieu, on a reçu le Christ, le prêtre ou le diacre nous envoie aller dans la paix du Christ. Bah, du coup, voilà, il est quand même très fort cet envoi. Enfin, on a reçu, c'est pas juste allez dépêchez-vous, on voudrait fermer l'église, c'est vraiment vous avez reçu la parole de Dieu, vous avez reçu des nourris de l'Eucharistie. Maintenant, être témoin de cette paix. Et puis, bien sûr, tout au long de la messe, il y a justement, avant cet échange ou pas de la paix, juste avant l'agneau de Dieu, cette très belle prière que le prêtre dit. Voilà. Voilà, cette magnifique prière où la paix est omniprésente, juste après le Notre Père. « Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. » Voilà, ce vœu de paix que le prêtre fait juste avant qu'on communie, on a dit Notre Père, il est juste magnifique.
Alors, il est magnifique parce qu'il est associé à l'unité aussi. On n'a pas évoqué cette idée que la paix, c'est l'unité. Ou...
Ça va ensemble.
C'est une source.
Ça va ensemble. Enfin, si on est unis au Christ et si on est en la paix, on s'aperçoit que nos querelles de clochers, on peut les relativiser. Et du coup, voilà, nous, chrétiens, on a quelque chose de beaucoup plus fort que de savoir comment il faut célébrer.
Alors, le geste de paix dans cette liturgie, quelle place il occupe ?
En fait, il est peut-être à bien comprendre parce que pendant un moment, on le faisait à chaque fois, et du coup on avait peut-être oublié, le temps du Covid on s'est arrêté, et en fait quand on s'est mis à le refaire, au début on serrait pas la main, mais on se regardait dans les yeux, et peut-être que le regard nous a permis de recomprendre ce geste. En fait, ce geste, il vient du Seigneur qui est présent sur l'autel à ce moment-là. On a dit notre Père, le Christ est là, et c'est lui qui nous apporte cette paix. C'est pas juste on est content de voir Madame Michu, Madame Truc à côté de nous à la messe, on va lui faire un grand baiser et nous serrer la main. En fait, Ce geste de paix, on s'échange, on va communier, le Christ est présent sur l'autel, il nous apporte la paix. Et voilà, ça peut être sobre auprès de ses voisins, etc. Il n'y a pas forcément besoin de faire le tour de l'église comme dans certaines communautés où tout le monde avait besoin de donner la paix à tout le monde. Mais si on comprend pourquoi on le fait, ben voilà, ça a tout son sens. Il y a des communautés monastiques où c'est fait très sobre, les prêtres qui célèbrent, qui le donnent aux moines, qui ensuite transmettent. Et en fait, ça nous aide à recomprendre pourquoi on fait ce geste. En fait, il vient vraiment du Christ qui est présent sur l'autel. Et les moines qui font soit une poignée, soit une accolade, mais ça, c'est transmis de moine en moine, et c'est très, très touchant.
Alors, à propos de paix, je voudrais qu'on s'arrête sur cette disposition à s'abandonner aussi. Ça en fait partie. Et vous citez, et j'aimerais qu'on le lise, ce texte de Charles de Foucault. C'est « Mon Père, je m'abandonne à toi », je voudrais qu'on l'écoute.
« Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon père. »
Père Guillaume Le Floch, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte ?
Mais déjà parce que j'aime beaucoup Charles de Foucault et que cette prière, elle commence à être bien connue, et c'est un bel exemple d'abandon. Et je suis convaincu que pour avoir la paix, pour la trouver, il y a un moment où il faut accepter de ne pas tout mépriser. C'est vraiment une attitude chrétienne par excellence, qu'on dit aussi dans notre Père, que ta volonté soit faite. Mais si on est inquiet, si on se demande comment sera fait demain, bah, on ne peut pas être dans la paix. Il y a un moment où il faut accepter de lâcher prise. Et du coup, bah, là, Charles de Foucault est un magnifique exemple. Enfin, dans sa vie, bah, voilà, il cherchait à avoir des disciples, cherchait à créer une communauté, il n'y a eu personne. Mais il n'empêche qu'après sa mort, il y a eu une fécondité incroyable. Voilà, les critères du monde, ce n'est pas forcément les critères de Dieu, mais bah, voilà, il y a eu une fécondité. Et voilà, Charles de Foucault a fait confiance, il s'est abandonné. peut-être que si c'était le critère du monde, il se serait révolté, bah quoi bon, je suis tout seul, personne, etc. Et bah voilà, il a fait confiance, il s'est abandonné, et on voit la fécondité aujourd'hui, il touche énormément de monde.
Et puis un dernier point aussi sur les conditions dans lesquelles on peut garder cette paix, c'est celle du lien avec la vérité. La vérité et la paix, on a parlé de la justice et de la paix, je voudrais qu'on s'arrête sur la vérité et la paix. Est-ce que la vérité conduit toujours à la paix? On sait que parfois ça peut au contraire raviver des conflits, raviver des tensions. La vérité est-elle garante de la paix?
Ça c'est un sujet qui est pas simple parce que il y a des vérités où c'est pas forcément le moment de le dire. On a tous des souvenirs de moments de famille, des déjeuners de famille où certains voulaient régler ses comptes avec un autre et en soi il avait raison, ce qu'il disait était vrai. Et donc voilà, mais est-ce que c'était le moment? Est-ce que pour le souci de la paix, non pas mentir, ça c'est jamais bon de mentir, mais est-ce que peut-être attendre? Est-ce que plutôt qu'en parler devant tout le monde, voilà, il y a peut-être pour avoir ce souci de cette paix, non pas au détriment de la vérité, parce qu'il faut jamais baisser la vérité. La vérité nous rendra libres. Le Christ nous apporte la vérité, il est la vérité. Mais dans un souci de charité, peut-être savoir concilier les deux.
Vous semblez dire que ce qui doit primer, c'est peut-être la paix avant la vérité, ou vous donnez le nom de vérité à autre chose?
Je dirais ce qui doit primer, c'est la charité, entre la paix et la vérité. Et du coup, si la charité prime, on aura les deux.
Merci beaucoup, Guillaume Le Floch. On vous retrouve demain. Je rappelle que vous êtes curé de la paroisse de Marne-la-Coquette et Vaucresson. Merci.